Frères et sœurs, les amis, comme je vous le dis chaque fois, dans la lecture que nous faisons de l'évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire chez saint Marc, en peu de versets, puisque nous en avons six, saint Marc va décrire un basculement important qui est celui de passer de Jean-Baptiste, la prédication de Jean-Baptiste, à la prédication du Christ. Alors, comme chaque fois aussi, dès le premier verset, le décor est planté après l'arrestation de Jean-Baptiste. Donc, il faut se mettre à la place. L'arrestation de Jean-Baptiste a certainement créé un traumatisme chez ses partisans, si je peux dire, assez fidèle, une arrestation qui a été brutale et dont on sait qu'elle s'est terminée par la décapitation de Jean-Baptiste. Donc Jean a été livré, et j'attire l'attention sur le verbe livré qui va revenir plusieurs fois chez saint Marc. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, on vous livrera aux tribunaux. Donc, j'allais dire dans le sens que ce verbe peut contenir, une fois que les choses sont livrées, ben, elles sont livrées, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Hein. Donc, nous voyons bien que, comme tous les prophètes, Jean-Baptiste d'abord et Jésus ensuite, quant au contenu de leur prédication, c'est la conversion dont il s'agit. Et cette conversion, nous savons très bien que c'est prendre un chemin qui est à l'opposé de celui qu'on est en train de prendre. C'est se retourner, c'est-à-dire se convertir, c'est totalement se retourner. Alors le contenu de la prédication de Jean-Baptiste comme celle du Christ, elle est la même, puisqu'il s'agit de la conversion. Par contre, le décor a changé, puisque donc Jean-Baptiste a été livré, et Jésus part, nous dit le texte, pour la Galilée, après le baptême au bord du Jourdain. Le passage du Christ dans le désert, Jésus va donc retourner en Galilée, et c'est là qu'il va commencer, j'allais dire, son travail apostolique, sa prédication, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vient donc de la Galilée, ce pays ou cette région plus ou moins suspecte, dont on se posait la question, que peut-il sortir de bon ? Et nous avons entendu, Jésus proclame la chose suivante, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Je veux dire que tout est résumé dans ce verset. Deuxième point de notre méditation, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur « Les temps sont accomplis » pour bien mettre les choses au clair en ce qui concerne l'aspect historique. En se posant la question, quelle est la notion que vous avez et que nous avons de l'histoire ? Parce que la notion de l'histoire qu'a le peuple d'Israël est tout à fait particulière. Moi, je pense que c'est la bonne, pour ne pas dire la moins mauvaise. À savoir que pour le peuple d'Israël, l'histoire, ce n'est pas un perpétuel recommencement. Comme il nous arrive de dire, ah ben ça c'est passé à telle époque, ça se repasse aujourd'hui, plus ou moins de la même manière. Non, l'histoire, elle a un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une direction. Autrement dit, il y a un début et une fin de l'histoire. Et c'est dans ce cadre-là que l'histoire humaine que le Seigneur va déployer, ce sera son projet d'alliance avec l'humanité. Autrement dit, le projet de Dieu s'inscrit ou s'insère entre un début et une fin, et non pas un perpétuel recommencement. Oh. Parce que dire que les temps sont accomplis, c'est dire que nous touchons au but, c'est que nous sommes arrivés au but. Et ça, on se le redit assez souvent, depuis la naissance du Christ sur la terre, eh bien les temps sont accomplis. C'est-à-dire nous sommes arrivés au but, le but est là, et nous attendons le parachèvement de ce but. Hein? C'est comme dans la première lecture. Comme le dit saint Paul, le temps est arrivé. Je reprends la lecture sous les yeux, pour ne pas me tromper. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité, dès lors, etc., que ceux qui ont une femme... Bon. Ça veut dire quoi, le temps est limité? Ça veut dire tout simplement que nous sommes arrivés à une limite qui est non pas un arrêt brutal, mais qui est au contraire l'arrivée de la barque humaine à son port d'attache, comme un bateau qui arrive au port. Et ce jour-là, où l'Esprit sera répandu sur toute chair, selon la promesse du prophète Joël, c'est l'accomplissement de cette promesse. Nous l'avons entendu au moment où nous avons fêté le baptême du Christ. « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, dit Jean-Baptiste, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Voilà le contenu de la bonne nouvelle, c'est que le jour de Dieu vient, le règne de Dieu est tout proche. Autrement dit, le règne de Dieu s'est approché. Et là, nous retrouvons la même dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui a fait alliance avec nous, et que nous nous approchons pas du règne de Dieu, c'est le règne de Dieu qui s'approche de nous. Alors ça, c'est très important de voir que cette dynamique, il ne faut pas renverser, car ça veut dire deux choses bien claires. Premièrement, que le royaume, ben, il s'approche de nous, je viens de le dire, et donc nous n'avons simplement qu'à l'accueillir. Et deuxièmement, que c'est déjà une réalité. Quelle est cette réalité? Bien, nous l'avons dit, nous l'avons entendu au moment du baptême du Christ, c'est-à-dire que les cieux se sont ouverts lorsque le Christ est sorti des eaux du Jourdain, les cieux se sont déchirés, et donc à nouveau, le ciel communique de nouveau avec la terre, voyez-vous. Ce n'est pas nous qui avons déchiré les cieux. Là aussi, comprenons bien le sens de la dynamique. Ce sont les cieux qui se déchirent, c'est-à-dire Dieu qui vient vers son Fils pour l'adouber, si je puis dire, comme étant reconnu être le Fils unique de Dieu. Donc je ne me convertis pas pour venir à la conversion, au thème de la conversion qui est au cœur de la prédication à la fois de Jean-Baptiste et de la personne du Christ, que la conversion, c'est pas moi qui me convertis par mes propres forces, c'est-à-dire le Christ nous invite sans cesse, et donc nous avons à accueillir cette conversion de sa part. Comment ? Bien, en croyant tout simplement que le don de Dieu, il est actuel. Il est, non seulement il est actuel, mais il est de chaque instant. Et que ce don est totalement gratuit. Et je pense que nous avons, une fois de plus, là, une manière de comprendre notre baptême. Nous ne sommes pas simplement baptisés tel jour, à telle heure, dans telle paroisse, et puis c'est imprimé sur un beau petit livret avec un tampon, etc. Mais que c'est toujours actuel, et que la grâce du baptême est une grâce qui sans cesse nous maintient dans la foi de l'accueil, de la bonne nouvelle et de la conversion que le Christ nous propose. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, c'est donc croire, bien sûr, que la bonne nouvelle, elle est bonne, je vous le dis très souvent. Elle est bonne pourquoi ? Parce qu'elle est habitée par Dieu qui est amour et pardon, et son amour, il est pour tous. C'est-à-dire la carte d'identité que le Christ nous offre et sur laquelle nous sommes gravés, entre guillemets, le jour de notre baptême, ça s'appelle amour et pardon. Eh bien, c'est tout ce que nous avons entendu dans la première lecture de ce dimanche, tiré du livre de Jonas. Qu'est-ce que disait cette première lecture ? D'une part, que Dieu veut le salut de tous les hommes, et non pas seulement de quelques-uns privilégiés. Et d'autre part, en prenant l'exemple de Ninive dans le texte, Dieu n'attend qu'un geste de nous, il suffit de nous convertir pour entrer dans son pardon. La deuxième lecture disait la même chose. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, ce qui veut dire croyez que le dessein de Dieu est un dessein qui est bon et bienveillant pour vous, et non pas d'être dans la suspicion qui a pu être celle de notre premier père, Adam, qui croyait que Dieu était mal intentionné à son encontre. Alors voyez-vous, la conversion, vous me direz, c'est facile d'en parler. Mais je crois que nous mettons trop souvent des barrières psychologiques, matérielles, quand on parle de ce thème de conversion. Bon, j'ai pas le temps de m'attarder à cette affaire-là. Mais j'allais dire que la conversion, elle est évolutive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avance dans le temps, par la sagesse, par la fréquentation depuis tant d'années de la parole de Dieu, par ma pratique religieuse, si j'avais une image à prendre de la conversion qui vaut ce qu'elle vaut, c'est un peu comme les stalagmites, c'est-à-dire ce goutte à goutte qui descend de la voûte céleste, lentement mais régulièrement, et qui, en s'accumulant, va constituer une sorte de colonne à force de recevoir ces gouttes qui vont structurer la stalagmite sur une certaine hauteur et parfois elle touche le plafond de la grotte, hein, si vous avez vu des images des grottes souterraines. Je pense que cette image peut nous aider à comprendre que la conversion est un goutte à goutte. Hein. Et c'est ça qui est important. Alors, ce goutte à goutte est peut-être très lent chez certains, chez d'autres il est un petit peu plus rapide, selon le dessein, le projet de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Alors, frères et sœurs, je vous invite et nous invitons les uns les autres à rentrer dans l'accueil de ce processus de conversion qui se fait peut-être parfois sans véritablement nous en rendre compte, mais qui est un point de départ qui a été celui de mon baptême et que je suis dans le navire qu'est l'Église, certes ballotté par beaucoup de vents contraires et beaucoup d'épreuves, entre autres celles que nous traversons en ce moment, mais dont nous savons aussi que nous avançons vers le port d'attache. Alors demandons dans cette Eucharistie de renouveler notre foi au plus profond de chacun de nos cœurs pour que cette conversion devienne une véritable réalité en nous, mais une réalité non pas accomplie, mais une réalité qui nourrit notre corps, notre cœur, notre foi et notre intelligence au goutte à goutte. Amen.